Avant de commencer, des termes seront récurrents au fil de cet épisode et ce ne serait pas mal de les définir avant d'entrer dans le vif du sujet. Le mot « femme » que j'emploierai désigne les femmes cisgenres comme les femmes transgenres. Une personne cisgenre est une personne dont le genre ressenti est en accord avec le genre attribué à la naissance. Une personne transgenre est, pour reprendre les mots de l'association Transat, une personne qui ne s'identifie pas au genre qui lui a été imposé ou assigné à la naissance. On appelle les personnes trans par leur genre ressenti, c'est-à-dire la façon dont elles se pensent et elles se vivent. Car l'identité réelle d'une personne relève de sa psychologie, et non de son corps, son apparence ou son comportement. Le genre réel d'une personne est donc celui qu'elle ressent et qu'elle revendique. Le terme « homme », employé ici, lui, désigne les hommes cisgenres. Pour l'intersectionnalité, je cite Inès Bargy pour Potiche. L'intersectionnalité est alors définie comme un outil qui permet de créer un cadre pour mieux montrer que les discriminations peuvent se recouper, se croiser, créer des intersections. Avec l'intersectionnalité, l'objectif est de reconnaître qu'un individu appartenant à un groupe subissant plusieurs formes de discrimination simultanément doit être protégé justement parce qu'il appartient à ce groupe dont il est avéré qu'il combine plusieurs caractéristiques qui peuvent être à la base de discrimination. J'ajoute finalement que j'écris cet épisode à partir des témoignages que j'ai recueillis et de livres et documents universitaires desquels je vous mets les liens dans la description. Il s'agit d'un complément inévitable au premier épisode car il aurait été malhonnête d'oublier ce pan de la culture Riot. Cependant, je suis blanche, de fait je ne peux pas prendre l'initiative d'écrire seule et en mon nom sur des expériences que je ne connais pas. Je vous invite donc grandement à aller plus loin dans la réflexion en consultant les écrits recommandés. Plus que jamais, ce numéro cherche à mettre en avant les voix de personnes pour qui le racisme et le sexisme sont une véritable réalité. Alors, avec la précieuse aide des femmes qui ont bien voulu partager avec nous leur vécu, engouffrons-nous dans la scène punk.
Les gamins blancs en général, qu'ils soient punks ou non, ils peuvent porter une coupe iroquoise verte et avoir les lèvres percées parce que peu importe combien ils ont dévié des normes de la société, leur blancheur est toujours ce qui ressort le plus. Par exemple, je vais sortir avec mes potes qui ont toutes l'air aussi chelou que moi, mais disons qu'on se fasse choper par la police parce qu'on skatait ou un truc du genre. Ce policier va se souvenir de mon visage bien plus distinctement que celui de mes copines blanches. Je l'entends. Ouais, il y avait cette fille noire avec ses cheveux roses et deux autres. Il y avait un atelier sur le racisme et j'ai entendu dire qu'il n'avait pas été très efficace, mais vraiment. Comment ça aurait pu l'être si c'était rempli quasiment que de blanches? Une d'elles, à qui j'ai parlé après les réunions, m'a dit que les filles asiatiques les tenaient pour responsables du racisme et qu'elle, cette nana, pouvait pas supporter ça. Elle a jamais entendu parler du mot culpabilité. Le mouvement Riot Girl, dans sa globalité, a montré beaucoup de choses différentes. Je suis désolée de dire que certaines d'entre elles n'en étaient pas de très bonnes. Comprenez-moi bien, je suis totalement pour la révolution Girl Now. Mais peut-être que ça devrait pas être limité qu'aux filles blanches de classe moyenne punk rock, parce que on peut pas nier que c'est ce que c'est. Extrait du numéro 4 du fanzine Gunk, créé par Ramda Shabiksem et publié en 1998.
Quand j'ai commencé à m'émerveiller face aux Riot Girls, le manque de diversité n'est pas la première question qui m'est venue à l'esprit. Vanter les mérites de Caitlyn Anna ou Corinne Tucker en affirmant qu'elle racontait la réalité était pourtant erroné. Elle ne parlait que de ma réalité d'adolescente blanche de classe aisée. Ça aurait été être de mauvaise foi que d'affirmer que les Riot Girls de la première génération étaient de vraies justicières sociales irréprochables. Elles ne l'étaient pas, notamment parce qu'elles ont pris toute la place, qu'elles ont gardé le micro pour elles. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, il n'y a pas qu'une seule histoire. Il y a une myriade de récits propres à chacun et chacune, d'où l'importance d'ouvrir, mais surtout d'écouter les voix. L'extrait que nous a lu Cécile date de 1998 et a donc plus de 20 ans. Mais preuve en est que j'ai mis bien plus de temps à trouver des artistes punk rock féminines racisées qu'à écrire l'épisode en lui-même. J'ai ouvert page internet sur page internet, envoyé des messages à pas d'heure, utilisé Spotify et Bandcamp comme des moteurs de recherche à part entière, une vraie chasse au trésor flou, sans aucune carte mise à jour pour nous guider. Mais il y avait un nom récurrent, Sister Girls Riot. Soirée organisée le 14 février 1997, le Sister Girls Riot rassemblait les groupes respectifs de Tamar Kelly Brown, Maya Glick, Simi Stone et Honeychild Coleman, toutes les quatre musiciennes noires issues de la scène punk. Leur but ? Repenser la fameuse Revolution Girl Style Now. Tamar Kelly explique que lorsque les girls blanches pouvaient faire le choix d'être des dures à cuire, il s'agissait d'une nécessité pour elles, en tant que femmes noires. L'enjeu était de réussir à contrer le malaise à l'idée d'être une fille noire dans un milieu de filles blanches et celui d'être une fille noire dans un milieu de mecs blancs. Il n'a jamais été question de s'opposer aux idées initiales des Riot Girls telles que l'histoire nous les raconte, mais d'ouvrir une porte pour sortir de cet espace qui, contre toute attente, était lui aussi aliénant. De fait, quelle place la scène punk rock féministe actuelle laisse-t-elle à la question du racisme? Les Sister Girls Riot ne peuvent pas avoir été qu'un beau moment un soir de Saint-Valentin 1997. Alors quel est leur héritage? Qui sont les néo-émeutières?
« Quand il s'agit de femmes noires ou de femmes de couleur, tu es à la fois confronté aux stéréotypes de genre et aux stéréotypes racistes. Et pour les femmes noires particulièrement, les stéréotypes racistes et les stéréotypes de genre sont d'autant plus omniprésents et préjudiciables que pour n'importe quel autre groupe de femmes dans n'importe quel autre groupe ethnoculturel. Une fois au concert, dans la salle, tu ne peux pas faire comme si le monde extérieur n'existait pas. On l'amène avec nous. Layana Dawis.
Que les modèles de beauté, les canons de beauté sont blancs et ont les cheveux lisses ou alors ont pas les cheveux bouclés et on en est tout fin, enfin Avril Lavigne quoi. Du coup j'étais un peu en mode putain, déjà je suis une meuf, déjà je suis noire, merde, comment est-ce que je vais faire pour expliquer que... Parce que peut-être que si j'avais été un mec noir, peut-être hein, que ça aurait été plus simple, je sais pas. Je pense pas vraiment, mais parce que j'ai quand même beaucoup de courage à plein de moments en assumant ce style-là.
Rudy est l'une des deux cofondatrices du média Écoute Meuf, qui tend à faire découvrir les femmes de l'industrie musicale mondiale. Elle est d'origine antillaise et a été biberonnée au rap. Elle raconte sa première rencontre avec le rock comme tout autant fragilisante que plaisante.
Mais c'était vachement dur, parce que j'avais pas de modèle de représentation à cette époque-là. Enfin, tout ce mouvement émo que j'adorais, c'était pas possible. À la maison, c'était pas possible non plus, parce que être émo, ça voulait aussi dire être dans une espèce de mélancolie, être dans un espèce de truc, je sais pas moi, dans une espèce de tristesse, qui était pas forcément une fausse tristesse, parce qu'on se faisait quand même grave bully au collège, donc on était pas très bien. Mais la tristesse, c'était aussi un luxe, dans le sens où, à la maison... après, je parle en tant que moi, hein, mais dans ma culture, en tout cas, dans la mienne, dans la manière dont j'ai été élevée, être triste, être mélancolique, ça te fait perdre du temps. Il faut toujours avoir l'énergie. L'énergie de pouvoir rebondir, et l'énergie de pouvoir passer à autre chose rapidement. Pas possible d'être triste. Pas possible de pas avoir d'énergie, pas possible de... d'écouter Avril Lavigne et d'avoir une petite larme qui coule. Moi, j'ai été élevée, en tout cas, dans cette espèce d'insensibilité-là qui matchait pas forcément avec ce que j'étais, au final, et ce que je suis encore aujourd'hui. Et du coup, moi, je savais pas où j'avais ma place. Et pas forcément ma place avec mes copains blancs qui, eux, avaient le droit de prendre les transports pour aller jusqu'à Bastille et... ou alors chez Claire pour s'acheter leurs trucs. J'avais pas non plus ma place à la maison parce que je me considérais... J'ai fait des guillemets. Je le considérais comme émo. C'était super compliqué. C'était de trouver sa place, ouais.
Et on en revient à la question principale. Comment tu fais pour être ému et ou en colère si tout autour de toi te dit que t'as pas le droit ?
Je me faisais une image, notamment par rapport à tout ce qui était le satanisme, tout ce qui était musique pour les blancs, parce qu'on disait ça. Moi, j'ai vécu dans une cité, on disait ouais, c'est la musique pour les blancs, c'est la musique... Ça, le hip-hop, c'est plus la musique pour les noirs, enfin, tu vois, ce genre de clivage qui nous vient pas mal des États-Unis d'ailleurs, et qui est un petit peu bête, mais voilà. Et donc, et une musique aussi pas mal, très masculine, très blanche, et très, très portée sur l'occulte. J'avais vraiment cette image-là. Et ayant grandi dans une famille assez chrétienne et tout, je me disais, oh là là, je vais pas m'aventurer là-dedans et tout, je vais pas mettre mes pieds là-dedans, c'est pas fait pour moi.
Ça, c'est Prisca, chanteuse du groupe Imparfait.
C'est con de se fermer les portes parce que tu te fais une image d'un style musical. Le départ était un petit peu compliqué et je crois que je me mettais des barrières toute seule en fait parfois. Je me souviens un jour j'avais postulé sur un truc genre Zikin, tu vois, tu sais, où t'es dit allez, je vais me chercher un petit groupe de rock et tout. Et j'avais mis à la fin de mon... Et je m'en rends compte maintenant de la débilité du truc, mais j'avais quand même fini par dire, genre au bout de quelques échanges, j'ai dit ouais, j'ai précisé que j'étais noire. Je sais pas pourquoi. Et en fait, en y réfléchissant, je me suis dit ouais, c'est peut-être parce qu'effectivement, je me dis ouais, je veux pas choquer le mec, quoi. J'arrive et il se dit, il correspond pas trop à ce que je me faisais comme image et tout. Alors que c'est complètement débile, mais voilà, inconsciemment, ça t'imprègne, ce genre de choses. Et tu t'en rends compte soi plus tard, ou en y réfléchissant, ou avec un peu d'introspection, et tu te dis oh là là, c'est fou quoi, ce genre de pression que tu peux avoir qui vient de l'extérieur, quoi, alors que moi je voulais juste faire de la musique. Quoi.
Devenir une dure à cuire n'était pas vraiment un choix. Brown est devenue la dure à cuire pour prouver qu'elle pouvait traîner avec les mecs mais aussi s'en défendre. Les nanas dures à cuire ne se font pas baiser, elles baissent tout. Être une femme noire sur la scène était encore plus isolant. Je faisais partie de la scène tout en me sentant comme une île, composant avec tous ces mecs et leurs pénis, dit Brown. Pas personnellement, mais juste dans la façon par laquelle ça les intègre dans la vie et dans l'air et l'espace autour de toi. Gabby Bess, à propos de Tamar Kali Brown, autrice, compositrice et interprète américaine.
Sauf que la colère, c'est une question de survie. Une question de survie dans un monde masculin. Mais pas que. Dans un monde blanc. I wanna let you know that you have...
Et ouais, certaines d'entre vous se disent prêtes à détruire la mentalité de mec blanc, mais est-ce que vous avez regardé votre mentalité à vous ? Votre mentalité de fille de classe moyenne aisée ? Qu'est-ce que vous diriez si je voulais détruire votre mentalité ? Est-ce que vous diriez, et la sororité ? Lauren Jade Martin, you might live as well.
Boum, allez, prends ça dans les dents, tapis et chaos technique.
La sororité n'est possible qu'à partir du moment où nous sommes prêtes à affronter la manière dont des femmes ont dominé et exploité d'autres femmes, sur des critères de race, de classe, de genre, de sexualité, d'âge, de poids, de santé mentale, de validisme, mais aussi sur d'innombrables petites exigences de conformité morale, physique, culturelle ou comportementale. La solidarité entre femmes est une trahison. Pour obtenir l'approbation masculine et partant d'une petite place à la mi-ombre, sinon au soleil, nous devons nous critiquer, nous déchirer, nous haïr. Et tirer chacune pour soi, au détriment des autres, notre épingle du jeu. Christine Aventin, citant Bell Hooks dans son livre « Feminist Punk ».
Bon, d'abord, c'est quoi la sororité ? D'après le dictionnaire Larousse, c'est une attitude de solidarité féminine. Encore un mot qui, en théorie, fait très plaisir. On a envie de scander partout et de croire en sa nature la plus pure. Oui, soutenir les autres femmes de la même façon qu'on aimerait être soutenue. Pourtant, le mot a généré bien des débats au milieu de discussions féministes. Non, les femmes blanches n'ont pas toujours secondé les femmes racisées.
C'est à cet endroit que le mot « fille » est une bombe et doit être pensé non comme une catégorie genrée, mais comme une fiction politique. Une fiction politique radicale dont peut librement se réclamer toute personne dont l'existence infecte celle de l'étalon universel. Se concentrer de privilèges aveugles qui font l'être capitalo-centré par excellence, le sous-sbire se pavanant dans un t-shirt Superman, certes, tout autant que l'experte réfléchissant sur la condition de la femme dans un bureau nettoyé de nuit par un corps de travailleuse précaire dont elle se fout éperdument. Mais aussi, en vérité, les consommatrices d'événements queer qui rentrent en Uber après avoir mis 2 balles dans la cagnotte, tout autant que les officières surmédaillées du radicalisme qui en font un système moraliste et punitif. Infecté, j'insiste, car si, comme on l'a dit, ce système neutralise par phagocytose le moindre élément exogène infiltré qui pourrait en compromettre la pérennité, alors nous pouvons peut-être avancer que l'expérience féministe punk est celle d'une infection culturelle et politique, qui répond aux logiques de pouvoir par des rapports de force, aux identités par des affinités, à la cooptation par la contagion. Christine Aventin, dans Féministe Punk.
Et l'infection alors, elle passe par la musique.
La musique, dans notre culture en tout cas, ça a toujours été... une solution, un remède, du coup, il situe là mon remède. Ne serait-ce qu'à l'époque de... Enfin, là, du coup, petit moment d'histoire, mais ne serait-ce qu'à l'époque de l'esclavage, pour communiquer entre eux, les esclaves, tapaient sur leur tambour, et c'était leur quart d'heure de fête, de liesse, de communion, et pour un peu, malheureusement pas oublier, mais passer outre toute la violence à laquelle il devait faire face et qui reste aujourd'hui ultra ancrée dans la culture antillaise. Nos danses traditionnelles se font au tambour. C'est des musiques et des traditions et des rites qui datent de l'esclavage qu'on a gardés aujourd'hui et qui sont nos remèdes. La fête, c'est un remède pour nous. Évidemment, il n'y a pas de fête sans musique. Donc, c'est QFD. Voilà, à la maison, quand ça n'allait pas bien, bah, nous, on se mettait un Curtis Mayfield, on se mettait un James Brown, on se mettait un Michael Jackson. Moi, je me mets un Beyoncé, je me mets un... Tu vois, j'ai cette espèce de lien à la musique ultra fort parce que c'est une des solutions principales, tu vois. Et j'explique vraiment ça par tout notre patrimoine culturel. Je sais que ma grand-mère, quand ça n'allait pas, quand elle faisait face à une quelconque violence, bah, y avait ce CD de salsa en boucle qui tournait. Et nous, bah, on était là et elle va forcément mieux, il y a de la salsa à la maison.
On l'a dit, on l'a répété. On a compris que le projet du rock féministe, c'est de parler de l'intime et de l'adresser aux autres personnes marginalisées qui pourraient se sentir seules. Se tendre la main mutuellement, se dire qu'on se comprend et qu'on veut bien tout cramer ensemble. Et pour mieux comprendre, Prisca, elle écrit en français. Elle, c'est plutôt pour se parler à elle-même, et elle tient ça de son père.
Et j'écoutais aussi, finalement, aussi de la chanson française, parce que mon père adorait ça. Et il avait du mal avec l'anglais, enfin... Il avait du mal. C'est pas qu'il n'aimait pas, mais je pense que... on n'est jamais parlé, mais je pense que le fait de comprendre les paroles, c'était important pour lui. Donc le français, ça marchait. Donc tout ce qui était en français, ça marchait. Dès que c'était avec des trucs en anglais, voilà. Et tout ce qui était en Lingala ou Chiluba, c'est des langues, en fait, qui sont parlées donc au Congo, bah ça marchait, quoi. Parce que du coup, il comprenait et il pouvait... identifier directement les paroles et tout ça. Et je pense que ça m'a imprégné finalement, du coup, pour... je pense que ça m'a imprégné, mais très inconsciemment, je pense. Et quand j'ai commencé ce groupe-là, donc Imparfait, bah, on a commencé à écrire... J'ai commencé à écrire directement en français. Je me suis pas trop posé de questions et ça s'est fait assez naturellement, de manière assez fluide. Et je pourrais pas revenir en arrière parce qu'il y a, ce rapport très direct au français qui... J'ai pas avec l'anglais, quoi. Quand j'écris en anglais. Quand je chante, c'est encore différent. Quand je chante un texte fait par un autre. Mais quand j'écris, c'est direct en français. Ça me parle tout de suite, quoi. Au premier degré, quoi.
Après, j'ai vraiment envie qu'on sache que je ne parle que de moi, même si il y a des points communs entre d'autres gens qui appartiennent à ma culture, la culture antillaise. En tant que noire, peu importe d'où on vient, l'insensibilité quand on est une personne racisée, noire, c'est toujours très... la sensibilité, c'est toujours très compliqué quand on est racisé. Les problèmes psychologiques viennent toujours après. Je saurais pas t'expliquer pourquoi. C'est comme ça qu'on est élevé. C'est dans ce prisme-là qu'on a été... qu'on a grandi. Moi et d'autres. Après, encore une fois, je ne globalise pas. Mais... Voilà. Mon éducation, ouais. Je sais que, par exemple... Mes parents, surtout mes grands-parents, ont été élevés dans une espèce de violence tangible et latente. Et qui, du coup, fait qu'on est insensible. On ressent pas ni le chaud, ni le froid. On n'a pas le choix que d'avancer parce qu'on a déjà vécu, on a toujours vécu pire. Tu vois ? Puis même, il y a un peu ces traumatismes de l'histoire, bien sûr, qui entrent en jeu inconsciemment. Mais on a toujours vécu pire, donc... On avance. C'est comme ça. On s'en remettra plus tard, quand on aura le temps. C'est ça le remède, je pense. C'est le bruit.
C'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer vraiment parce que c'est vraiment l'énergie du live, cet échange d'énergie qui me fait kiffer quoi. Parce que du coup on dit Frontwoman mais c'est pas que mon groupe en fait. Je dis Frontwoman parce que en fait je suis la personne qui a le micro et qui parle en fait. Donc du coup je parle un peu au nom de tout le monde et ça m'a beaucoup fait, ouais effectivement ça m'a fait beaucoup grandir. Et il y a ce truc là quand t'es en live d'énergie que tu lâches mais que tu reprends en fait, tu prends un échange comme ça avec le public et ça n'a aucune comparaison quoi. Tu te laisses aller, il y a une sorte de lâcher prise en fait par rapport au quotidien, au carcan dans lequel on est aussi dans la vie quotidienne. Tu sais, il y a une certaine image que tu gardes, que ça soit au travail, que ça soit voilà. Et en live, il y a ce truc-là où tu lâches tout. Et il y a ce côté aussi où c'est un cocon un peu particulier parce que c'est quelque chose que tu retrouves jamais à l'extérieur dans la vie de tous les jours ou quoi. Cette énergie, ce lâcher prise, tout le monde saute, tout le monde sait, tu vois, se saute dessus et que tu échanges avec le public. Il n'y a qu'en concert que j'ai ces sensations-là. Donc, c'est un peu égoïste, beaucoup pour moi, mais je kiffe voir ça en face, quoi, quand ça répond et tout. C'est pour ça que j'invective beaucoup le public. C'est marrant parce que il y a pas longtemps je pensais à mon moi d'avant imparfait et mon moi de maintenant. Et tu pourrais demander au gars du groupe, j'ai l'impression que c'est deux personnes différentes. Parce que, alors bien sûr, la vie te fait grandir, mais je sais que le groupe m'a beaucoup fait grandir. Et je sais que une des choses, c'était d'écrire des paroles, de composer de la musique, de s'imprégner vraiment et de faire des concerts, quoi. De faire des concerts en tant que frontwoman, mais dans le sens chanteuse, tu vois.
Ah tiens, frontwoman. Sur la page Instagram du groupe, on retrouve un post particulier avec écrit en gros « Female fronted is not a genre ».
Moi, par rapport à ce post-là, groupe avec une fille n'est pas un style musical. C'est parce que parfois, je vois des chroniques ou des descriptions, tu vois, qui sont faites, qui mettent l'accent sur ça, alors que ça n'a pas lieu d'être, notamment, enfin vraiment pour le groupe, ça n'a pas lieu d'être, quoi. On s'en fout que ça soit une femme et on ne dit jamais c'est un groupe à chanteurs, enfin tu vois, on ne dit jamais ça. Mais on le précise pas mal quand c'est pour une femme, tu vois. C'est un groupe à chanteuses, est-ce que ça détermine une patte musicale particulière, tu vois? Je ne crois pas. Je pense pas, moi, dans ce que j'écoute, j'ai pas l'impression. Et donc, parfois, ça m'embête, quoi, de voir ce genre de remarques. Et parfois, je pense que c'est inconscient. C'est pas... voilà, tu vois, le mec qui fait son article... Parce que, voilà, ça peut être un mec ou une femme, hein, derrière. Mais la personne qui fait son article... le voit peut-être pas mal, quoi. Tu vois, je dis groupe à chanteuse. Bon, je veux dire groupe à chanteuse, tu vois. Mais ça donne cette impression qu'effectivement, ça donne une particularité au fait que ce soit une chanteuse. Je pense pas que le fait que je sois une chanteuse et imparfait soit une particularité. En tout cas, dans ce groupe-là. Après, peut-être dans d'autres groupes, j'en sais rien. Hein, mais moi, j'ai pas d'exemple qui veut dire, voilà, ça donne une particularité dans le domaine purement musical. C'est comme on m'avait posé une question un jour sur le mouvement... afro-punk et sur les groupes afro, c'est pareil pour le terme, je le trouve un peu spécial. À moins que la musique ait une influence, je sais pas, dans les sons, dans les rythmes ou quelque chose d'africain, je vois pas le terme, tu vois, c'est pas parce qu'il y a une personne noire, je ne pense pas que le fait que je vois noir, ça contribue à quelque chose. Peut-être, mon histoire fait que, mais ça ne donne pas une particularité. Quand t'écoutes Imparfait, tu te dis pas, ah bah c'est une chanteuse noire. Tu te dis pas, Ah, il y a de l'africanité là-dedans.
La musique, c'est effectivement une question de technique, et l'apprentissage de cette dernière ne se définit en aucun cas par le genre de la personne qui la maîtrise. C'était cool de discuter avec Prisca parce qu'elle m'a fait remettre en question pas mal de choses concernant Néo et Meutière. Si on regarde ma playlist principale au sein de laquelle je range tous les morceaux de rock où il y a une nana dans l'histoire, parmi les groupes sélectionnés, ils sont loin de tous revendiquer la présence d'une meuf comme quelque chose de remarquable. C'est moi qui calque mon regard de maniaque obsédé par les filles qui font du rock. Mais si je pose ce regard-là, c'est aussi parce que c'est important de remarquer, oui, encore une fois, que les femmes sur la scène rock sont pas bien nombreuses. On pense notamment à Lola Frichet, bassiste de Pogo Car Crash Control, qui s'est baladée cet été avec More Women on Stage scotchée au dos de sa basse. On peut pas faire comme si notre genre ou notre couleur ne définissait pas notre statut dans la société. Et comme la scène musicale, c'est la société en miniature, bah c'est pareil. Alors il y a la nécessité de marquer leur présence. Même si ça change rien musicalement, ça a un poids en termes de... représentation. Oui, encore ce mot, je sais. Et Rudy nous prouve son importance en nous parlant du dernier album de Willow Smith.
Willow Smith, qu'est-ce qu'elle représente? Bah, plein de trucs là, c'est vachement bien ce qu'elle fait. Elle représente un peu celle que j'aurais voulu avoir back in 2007. Une espèce d'ovni, une meuf noire avec des nattes jusqu'en bas des fesses, avec un style ultra alternatif qui gueule sur sa guitare et qui casse sa guitare et qui représente juste un truc de dingue. Moi, je regrette d'être peut-être trop vieille pour comprendre à 100% le phénomène. Mais en tout cas, je le vois de loin et je le trouve tellement essentiel. Essentiel parce que il y a d'autres petites meufs qui sont en cinquième et qui, je sais pas si ça existe toujours le mouvement emo aujourd'hui, mais qui sont en tout cas alternatives, qui sont punk, mais qui n'ont pas cette représentation à la maison, à la télé. Ça n'existe pas, en tout cas pas que je sache. Je trouve ça tellement important, tellement bien pour toute la génération à venir. Là. Celle qui n'ose peut-être pas sortir comme ça, parce que bah, ça ne leur appartient pas. En tout cas, on leur a toujours dit que ça ne leur appartenait pas. Celles qui veulent se lancer dans la musique, rock, punk, post-punk, emo, je sais pas quoi, qui veulent se lancer dans ces trucs-là et qui se disent, bah non, il n'y en a pas d'autres comme moi, je vais être toute seule, ça va être trop dur, c'est un truc de blanc, je leur ressemble pas. Willow, bah non. Après, effectivement, elle a des privilèges. Sa famille, on sait très bien qui c'est, elle sort pas de nulle part, elle a de la thune. Mais elle utilise quand même cette plateforme-là pour... ça me touche énormément. Ça me touche, je suis trop contente. Vraiment, je trouve ça vraiment, vraiment très chouette. Je vais faire un vœu. J'espère que au fil des années, il y aura plus de meufs racisées avec un style alternatif. Parce que ça voudra dire qu'il y aura plus de représentations pour les jeunes femmes et les jeunes mecs et les jeunes personnes non binaires racisées. C'est tellement important la représentation, tellement important de pouvoir se dire c'est pas grave, même si il y a quelqu'un qui me ressemble, je peux faire ça. Ça ne m'est pas interdit. L'interdiction, c'est toujours super difficile, se brimer, c'est toujours super difficile. J'espère qu'il y aura plus d'éléments de représentation parce que c'est vraiment la clé. Il faut qu'on soit plus et qu'on soit pas juste nous les personnes noires en tout cas cantonnées au style urbain. Ouais. Parce que ça me tue, ça me rend triste, ça me met en colère. Puis autre chose aussi, les femmes noires ont le droit d'être tristes. Ça j'aime bien le répéter. On a le droit d'être mélancolique, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être... On n'est pas du tout cette espèce de mythe là de strong black woman... Non, moi je suis ultra fragile, les gars. Genre, je chiale souvent, j'ai pas toujours la tête haute. C'est pas grave. Et avoir des éléments de représentation qui nous disent que parfois, ça arrive de baisser un peu la tête, pas avoir toujours le port de cou super droit, bah ça fait du bien, putain. Ça fait beaucoup de bien. C'est ce que j'ai à dire.
J'en parlais avec un gars qui me disait « Ouais, mais on s'en fout, tu fais ce que tu veux dans ta vie, même si t'as pas d'identification, on s'en fout. » C'est des trucs de fragile. Et ça m'a fait rire parce que oui, bah, quand t'es adolescent, oui, t'es fragile, entre guillemets. C'est-à-dire que oui, effectivement, tu cherches une identification, quoi. C'est comme ça que tu te construis et tu te cherches des identifications et même malgré toi. Moi, je suis un peu de la team, je m'en bats les steaks.
Oui.
Je t'avoue que... Bah, c'est marrant parce qu'en fait, moi, je me pose pas trop la question avant que... enfin, de manière générale, je me pose pas la question d'être une femme dans un groupe de rock ou d'être une femme noire dans un groupe de rock. Je me pose pas du tout la question. Ça m'est venu à l'esprit un peu vers le début du projet. Et en fait, c'est des rappels externes qui me font... parfois me poser des questions ou me dire ou quand j'ai des discussions avec d'autres musiciennes qui me font dire qu'effectivement parfois il y a encore un souci, il y a encore un problème d'acceptation qui est une femme dans un groupe. Pour une chanteuse, c'est beaucoup plus accepté. Et je me souviens, par exemple, on avait fait une balance un jour et il n'y avait pas le batteur. Donc du coup, le bassiste est allé à la batterie, parce qu'il c'est un très bon batteur. Et moi, du coup, j'ai pris la basse voilà, pour faire la balance. Et donc je connais mes morceaux, enfin je connais nos morceaux, tu vois, j'en compose une grande partie. Donc l'ingé son qui vient, qui me dit ouais, notre bassiste il est pas là, machin et tout, c'est mieux si c'est le bassiste qui fait et tout. Je dis t'inquiète, ça va le faire, il rouspète un petit peu, tu vois, dans sa barbe, il ne dit pas trop les choses en face, mais il rouspète, il est pas content. Et je me suis dit putain, je joue pas d'instrument sur scène, tu vois, mais. Quand j'entends certaines histoires et quand j'entends certaines choses, je me dis c'est pas possible, quoi. Enfin, je veux dire, laisser les gens faire leur truc et puis après tu peux potentiellement juger ou quoi. Mais là le mec, j'avais même pas encore rien du tout, j'avais pas posé mon doigt sur la corde que déjà il était dans une sorte de jugement, tu vois, sur le fait que j'étais apte à jouer de la basse dans mon propre groupe. Sinon, peut-être que j'ai appris à pas y faire attention parce que sinon c'est mentalement beaucoup trop tu vois, énergivore, quoi, de me repenser constamment, se dire ah mon dieu, ils vont me voir comme ça, ils vont se dire que c'est une meuf noire machin et tout. C'est vrai que j'ai eu la réflexion un petit peu au début, mais voilà, j'y fais pas spécialement comment dire, je mets pas l'accent dessus, j'y pense pas beaucoup, mais force est de constater qu'effectivement à chaque fois que je suis en concert, alors c'est déjà de voir des musiciennes instrumentistes, hein, parce que voilà, je mets les chanteurs et les chanteuses dans les musiciennes, parce qu'il y a aussi ce petit débat-là. Mais je vois pas donc déjà beaucoup d'instrumentistes, notamment dans le rock et dans le métal. Et je vois pas beaucoup de filles, en fait, je ne vois pas beaucoup. Et ça m'arrive de faire plein de concerts où en fait je suis la seule fille de tous les groupes. Et enfin, foncièrement ça me dérange pas en soi, mais voilà, c'est assez révélateur quand même. Et alors noir, j'en vois pas, j'en vois quasiment pas. Alors j'arrive, je suis très très souvent la seule, tu vois, la seule noire dans le lot. Quand j'en vois un, ça fait quand même un peu tilt en mode ah mais. Ouais, ok, ouais, ok. Mais tu vois, ça fait quand même un peu tilt. Je suis obligée, c'est comme ça. C'est... Parce que voilà, forcément, force est de constater que il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, après, ça s'explique par plein de choses, hein. Sociétal, enfin, plein de choses. Mais voilà, effectivement.
Être punk, c'est un truc de mec blanc, puisque c'est à eux qu'on vend ce genre musical. Les réflexions concernant les appellations musique du monde et musique urbaine prouvent que pendant très longtemps, trop longtemps, et encore maintenant, les genres musicaux sont pensés pour un certain public d'acheteurs. On scinde, on réserve les places sans se demander à qui plaire à quoi, et on fait du rock un truc de mec frêle tout pâle. Ou pas.
donne une définition et ensuite j'essaye d'analyser. Si je correspond à la définition, je suis punk. Alors, une définition. Être punk, je dirais que c'est rentrer en soi et se défaire de trop de carcans externes, quoi. Qui t'empêche d'être ce que t'es, quoi. Ce que t'es au fond de toi, quoi.
Je pense qu'être punk, c'est vraiment créer ses propres règles du jeu. Genre, c'est aller au-delà de ce à quoi on veut te cantonner. Ouais, encore une fois, cette question de l'alternativité. Je sais pas si c'est un mot qui existe, l'alternativité.
T'es en train de l'inventer,
ça. Oui, voilà, je fais un truc absolument punk, là, par exemple. Alternativité, je l'invente, je fais ce que je veux. C'est mon nouveau mot. Je fais corps avec. Et ça, c'est ultra punk, je pense. C'est ça ma définition du punk.
Et du coup, c'est quoi être féministe ?
Moi, j'ai mon féminisme à moi, qui est intersectionnel. Le féminisme, c'est juste avoir envie qu'on nous respecte, qu'on nous donne, encore une fois, la visibilité qu'on mérite, pour laquelle on et les femmes avant moi, et les femmes encore avant celles qui étaient avant moi, se battent. La déconstruction d'un espèce de patriarcat qui, moi, me donne des ulcères et des maux de ventre et des maux de tête. Toujours, c'est mettre un énorme coup de pied dans la fourmilière. C'est se battre, c'est parler plus fort que ce qu'on te dit de parler, c'est jamais baisser le ton, c'est chuchoter quand t'as envie de chuchoter, tellement de choses, le féminisme. En plus, c'est d'une beauté, le féminisme, je le trouve. C'est une espèce d'énorme bataille qui n'est pas finie, qui ne fait que commencer, même si ça fait des années qu'elle est là. C'est tellement vaste, c'est plein de choses, mais en même temps, c'est si peu de choses, c'est juste respectez-nous, genre, laissez-nous respirer. Genre.
Être féministe, je dirais que c'est... Il a été tellement utilisé le terme que du coup, tu vois, pour moi, la signification première, c'est une recherche d'égalité, d'égalité sur tous les plans, quoi. Après, il y a tellement de courants féministes dont je ne suis pas du tout au courant. Il y a beaucoup de courants. Et pour moi, féministe, c'est être humaniste aussi, mais... Je sais pas, je suis pas assez au courant. J'ai pas envie de te dire de bêtises, tu vois. Moi, je le suis parce que selon cette définition-là, tu vois, je le suis. N'ayant pas suivi ou lu, tu vois, différents courants féministes, je vais te donner une définition plus poussée, tu vois. Mais pour moi, c'est ça, c'est une égalité en tout point, quoi.
Riot Girls se sont un peu pris les pieds dans le tapis. Elles ont apporté des choses super bénéfiques à la scène rock, mais se sont confrontées à de réels manquements concernant la question du racisme. La scène actuelle tarde encore à laisser la place qu'il faut aux femmes racisées et touche à des questions qui dépassent la simple misogynie. On touche directement au racisme. Qui incite-t-on à venir à des concerts de rock ? Il est compliqué de retrouver les traces d'un travail musical vraiment diversifié parce qu'une hiérarchie a été mise en place dans l'industrie culturelle. Mais pourquoi est-ce que c'est le travail des musiciennes blanches qui a été considéré comme digne d'être un tant soit peu conservé et déterminé comme important ? Il y a encore beaucoup de travail à faire, de pistes à creuser, de murs à défoncer. J'ai posé des questions mais je ne suis pas à la bonne place pour tenter d'y répondre. Des sociologues, des professeurs, des chercheuses, un bon nombre de femmes comme toutes celles citées au long de cet épisode se sont penchées sur la question et ont proposé des réponses et pistes de recherche très poussées, très claires, qui méritent d'être lues, qui doivent être lues. Mais les musiciennes et auditrices non blanches, il y en a, et c'est important de le dire. Ces espaces qu'on nous a toujours vendus comme étant réservés aux mecs blancs, il y a toujours moyen de les infecter. À travers le bruit et par-dessus les barricades. Les Riot Girls sont mortes, vive les Riot Girls, vive les Noé Métier. Ce podcast a été écrit et réalisé par moi, Faustine Moulin. Cet épisode de Noé Meutière a été relu et corrigé par Kaina Atamrouche, qui m'a dirigé sur des pistes permettant de rendre cet épisode le plus pertinent possible.
Laurie Saka au mixage.
Les extraits ont été lus par Cécile Macodila. Vous retrouvez toutes les références citées, ainsi que celles qui ont guidé l'écriture en barre d'infos. Retrouvez Noé Meutière sur Instagram, à neo-du-bas-emeutière avec un S. Je pense évidemment à Prisca, qui m'a retrouvée dans un café, qui depuis soutient le projet avec ardeur, et à Rudy, qui m'a accueillie chez elle. Merci 10 000 fois, sans vous, ce numéro 2 n'existerait pas. Merci, comme toujours, à Radio Tempête, qui permet à ce projet de se propulser sur la toile. Merci à toutes les personnes qui m'envoient des artistes féminines, merci à mes amis, et merci à vous d'avoir écouté Noé Meutière.